Chapitre 6. Un affreux manque, proche de la faim, affligeait Martin Eden. Un besoin dévorant de revoir la jeune fille dont les mains graciles avaient empoigné sa vie, telles des mains de géant. Il ne pouvait se résoudre à sonner à sa porte. Il craignait de paraître impatient et de commettre ainsi une terrible infraction à cette terrible chose qu'on appelle l'étiquette. Il passa de longues heures dans les bibliothèques d'Auckland et de Berkeley, et rempli des formulaires d'adhésion pour lui-même, sa sœur Gertrude, sa sœur Marianne et même Jim, arrachant le consentement de ce dernier pour le prix de quelques bocs de bière. Fort de 4 cartes lui permettant de retirer des livres, il brûla tant de gaz la nuit dans la chambre de Bonne que M. Higginbotham augmenta son loyer de 50 cents par semaine. Les nombreux livres qu'il lisait ne faisaient qu'exacerber son impatience. Chaque page tournée ouvrait un volet de la forteresse du savoir. Sa faim se nourrissait de ses lectures sans jamais se rassasier. Il ne savait pas par où commencer et souffrait continuellement de son impréparation. Il lui manquait certaines références élémentaires que tout lecteur était censé connaître. Même la poésie qu'il lisait avec délice lui faisait sentir ses lacunes. Il dévora Swinburne, sans se limiter au recueil que Ruth lui avait prêté, et comprit parfaitement Dolores, mieux que Ruth même, se dit-il. Car comment eût-elle pu comprendre ces choses avec la vie si raffinée qui était la sienne? Puis il tomba sur les poèmes de Kipling et fut transporté par la musicalité, le rythme et la lumière qu'il mettait dans l'évocation de choses familières. Sa connaissance des hommes et sa psychologie incisive l'enthousiasmaient. Psychologie était un mot nouveau dans le vocabulaire de Martin. Il avait acheté un dictionnaire, ce qui avait entamé ses économies, avançant la date de son embarquement, et faisait enrager M. Higginbotham, qui eût préféré voir cet argent se transformer en loyer. Il n'osait pas s'approcher du quartier de route le jour, mais, la nuit, il rôdait aux abords de la maison Morse, comme un voleur, épiant les fenêtres et se prenant d'amour pour les murs même qui abritaient la belle. Il faillit plusieurs fois se faire surprendre par ses frères. Un soir, il suivit M. Morse en ville et étudia son visage à la lueur des réverbères, en formant des vœux pour que survînt quelque danger mortel afin de pouvoir voler à son secours. Un autre soir, son guet fut récompensé par une brève apparition de Ruth à une fenêtre du premier étage. Il ne vit que sa tête et ses épaules. Elle agrafait sa robe devant la glace. Bien que cela ne durât qu'un instant, ce fut suffisant pour que le sang lui montât aux tempes. Elle tira vite le store, mais il savait désormais où était sa chambre, et il revint souvent rôder près de cette fenêtre, caché derrière un arbre sur le trottoir d'en face, en fumant des cigarettes. Un après-midi, il aperçut sa mère sortant d'une banque, et il y vit une nouvelle preuve de l'énorme distance qui le séparait de route. Elle appartenait à la classe qui traitait avec les banquiers. De sa vie, il n'était jamais entré dans une banque, et il supposait que les institutions de ce genre n'étaient fréquentées que par les riches et les puissants. À sa manière, il avait entrepris une révolution morale. La propreté et la pureté de Ruth avaient influé sur lui et il éprouvait un impérieux besoin d'être propre. Il le fallait, s'il voulait un jour être digne de respirer le même air qu'elle. Il se lavait les dents et frictionnait ses mains avec une brosse à récurer. Puis, un jour, avisant une brosse à ongles à la devanture d'une droguerie, il entra pour l'acheter. Le vendeur, qui avait l'œil, lui suggéra d'employer aussi une lime et Martin se retrouva ainsi en possession d'un nouvel ustensile de toilette. Ayant découvert un livre sur l'hygiène corporelle à la bibliothèque, il manifesta bientôt un fort penchant pour les bains froids matutinaux, à la stupéfaction de Jim et aux grandes dames de M. Higginbotham, qui n'avait guère de sympathie pour ces notions farfelues et qui envisagea sérieusement de lui facturer l'eau en supplément. L'étape suivante concerna le pli du pantalon. Maintenant qu'il était versé dans ces sujets, Martin remarqua un détail significatif. Tandis que les pantalons de la classe ouvrière formaient des poches sous les genoux, ceux des hommes de la classe supérieure tombaient droit jusqu'aux pieds. Dès qu'il en sut la cause, il investit la cuisine de sa sœur en quête d'un fer et d'une planche à repasser. Ses premières tentatives se soldèrent par quelques mésaventures. Il brûla un pantalon et dut en acheter un neuf. Opération coûteuse qui hâta encore la date de son embarquement. Mais la réforme allait au-delà des simples apparences. S'il fumait toujours, il ne buvait plus. Jusqu'alors, boire lui était apparu comme une affaire d'honneur, et il s'était souvent enorgueilli de sa solide descente qui lui permettait de lever encore le coude quand les autres roulaient sous la table. À présent, quand il rencontrait des camarades d'équipage, et il y en avait beaucoup à San Francisco, il offrait la tournée et on lui rendait l'appareil, comme naguère, mais il ne commandait pour lui que de l'orgeat ou de la limonade, et endurait de bon gré leur taquinerie. En les regardant s'avelir et succomber à la bête que l'alcool réveillait en eux, ils remerciaient Dieu de ne plus en être là. Ils buvaient pour noyer leur dépit, et dans l'ivresse, leur cervelle de moineau se parant des ailes de l'aigle, chacun se croyait roi dans le paradis de ses désirs éthyliques. Chez Martin, le besoin de boisson forte s'était dissipé. Il s'enivrait d'une autre façon, avec Ruth, qui avait allumé en lui le feu de l'amour et lui avait fait entrevoir la vie éternelle, avec les livres qui avaient infiltré dans son cerveau une myriade d'appétits nouveaux, et à travers son entreprise de purification corporelle, qui accroissait sa vigueur et lui communiquait une vivifiante sensation de bien-être physique. Une nuit, il alla au théâtre avec le secret espoir de la voir, et il la vit, du haut du poulailler. Il la vit descendre l'allée centrale avec Arthur et un jeune homme inconnu à lunettes, à la chevelure bouffante, qu'il redouta aussitôt comme un rival. Il la vit prendre place dans un fauteuil d'orchestre, et, de toute la soirée, il ne vit guère qu'elle, deux frêles épaules blanches et une toison d'or pâle, estompée par l'éloignement. Mais il n'était pas le seul à avoir des yeux. Dans la rangée devant lui, un peu sur le côté, il remarqua deux jeunes filles qui lui lançaient des œillades en souriant. Il avait toujours été d'un naturel agréable. Son tempérament ne l'incitait pas à la rebuffade. En d'autres temps, il fut entré dans leur jeu et eut encouragé leurs audaces. Mais il n'était plus le même. Il leur rendit leur sourire distraitement, puis détourna le regard. Malgré lui, cependant, il surprit plusieurs fois leur minauderie et, son naturel reprenant le dessus, car on ne se renie pas aussi facilement, il leur sourit de bon cœur. Il connaissait la musique et savait reconnaître les avances des femmes, mais ce soir, tout était changé, il n'y avait plus qu'une femme au monde. Là, en bas, dans un fauteuil d'orchestre, si différente, si dramatiquement différente de ces deux grisettes qu'il en éprouva pour elle une sorte de pitié. Il leur souhaitait sincèrement de posséder ne fût-ce qu'une infime parcelle de la bonté et de la grâce de Ruth. Et pour rien au monde, il n'eût voulu les blesser en se jouant de leurs avances. Il n'en était même pas flatté. Au contraire, il avait presque honte d'en être l'objet. Il savait que, s'il eût appartenu à la même classe que Ruth, elles n'eussent jamais tenté de l'aguicher et chacune de leurs œillades le rabaissait douloureusement à ses origines sociales. Il quitta sa place avant la fin du dernier acte, afin de la voir passer quand elle sortirait. Il y avait toujours foule sur le trottoir et s'il se cachait derrière quelqu'un en rabattant la visière de sa casquette, elle ne le remarquerait pas. Il émergea du théâtre avec le premier flot des spectateurs, mais à peine s'était-il posté sur le bord du trottoir que les deux filles apparurent. Il savait qu'elles le regardaient et sur le moment, il se maudit d'attirer ainsi les femmes. En les voyant dériver lentement vers lui dans la presse, il comprit qu'il était découvert. Elles ralentirent et l'une d'elles, une brune svelte, aux yeux noirs et malicieux, le frôla en feignant de n'avoir pas remarqué sa présence. Mais elle lui sourit, et il lui sourit. « Salut, » dit-il. C'était spontané. Il avait dit cela 100 fois en de pareilles circonstances. Et puis il avait trop bon caractère pour jouer les indifférents. La fille aux yeux noirs répondit à son salut et fit mine de s'arrêter, imitée par sa compagne, qui lui retenait le bras en pouffant. Il réfléchit vite. Si elle sortait maintenant et le voyait bavarder avec ses deux filles, tout était fichu, l'air de rien. Avec beaucoup de simplicité, il emboîta le pas à la brune. Il était dans son élément ici. Il connaissait l'argot des faubourgs, savait le boniment et maniait la répartie avec gouaille, préliminaires habituels à ce genre d'aventure facile. Au coin, il voulut s'écarter de la cohue pour s'engager dans une rue latérale. Mais la fille lui saisit le bras et le suivit, entraînant sa compagne derrière elle en criant « Hola Bill, pas si vite, tu vas pas nous planter comme ça quand même !» Il s'arrêta en riant et se retourna vers elle. Par-dessus leurs épaules, ils pouvaient voir la foule défiler sous les réverbères. L'endroit où ils se tenaient n'était pas très éclairé, et de là, ils pourraient la voir sans être vus. Elle passerait certainement par là, puisque c'était son chemin pour rentrer. « Comment elle s'appelle ? » demanda-t-il à la rieuse en désignant la fille aux yeux noirs. « Demande-lui, » répondit-elle en gloussant. « Eh ben, c'est quoi ton nom ? » reprit-il en s'adressant directement à l'intéressé. « Tu m'as pas encore dit le tien ? » répliqua-t-elle. « Tu me l'as pas demandé. D'ailleurs, t'as mis dans le mille du premier coup. C'est Bill, t'as deviné. »« Ah, d'autres ! » Elle le regarda dans les yeux d'un air d'invite. « Dis-nous ton vrai nom, allez !» Elle la guichait encore. Des siècles de féminité parlaient par ses yeux. Il la jaugea d'instinct. Il savait que s'il la courtisait maintenant, elle changerait de registre et feindrait la timidité en faisant la coquette, toujours prête à renverser les rôles s'il désarmait. Il n'était pas de bois lui-même, il n'était pas insensible à son charme et résistait mal à sa flatteuse gentillesse. Oh, il connaissait ce jeu-là, il savait tout d'elle, de A à Z, de bonne fille, selon les critères de leur classe, travaillant dur pour de misérables gages, répugnant à se vendre pour arrondir les fins de semaine, cherchant désespérément une petite oasis de bonheur dans le désert de leur existence et jouant leur destin à pile ou face entre le calvaire sans fin des basses besognes et le gouffre sans fond d'une déchéance plus terrible encore, mieux payée mais plus brève. « Bill, » répondit-il avec obstination. « Bill, c'est bien ça. »« Sans char. »« Mais non, c'est pas Bill, » affirma l'autre fille. « Oh, comment tu le sais, » fit-il. « Tu m'as jamais vu. » Pas besoin de ça pour savoir que tu mens. Sérieusement, Bill, comment tu t'appelles ? Insista la première. Bill fera l'affaire. Elle lui secoua le bras facétieusement. Je savais que tu mentais, mais tu me plais bien quand même. Il lui attrapa la main et sentit sous sa paume des marques et stigmates familiers. Depuis quand t'as plaqué la conserverie ? Demanda-t-il. Elles s'exclamèrent en même temps. Comment tu le sais ? Et. « Mince, t'as le don de double vue, toi !» Et tandis qu'ils échangeaient des balivernes, une vision intérieure lui montra les rayonnages de la bibliothèque, plein de la sagesse des siècles. Il eut un sourire amer et fut assailli par le doute. Mais, entre sa vision intérieure et sa bonhomie extérieure, il trouvait le moyen de surveiller la foule qui sortait du théâtre. Et il la vit, en pleine lumière, entre son frère et le jeune inconnu à lunettes. Son cœur s'arrêta de battre. Il avait longtemps attendu cet instant. Il eut juste le temps de remarquer l'étrange chose vaporeuse qui couvrait sa tête princière, l'élégant drapé de sa silhouette, la grâce de son maintien et de la main qui tenait ses jupes. Puis elle disparut, et il se retrouva seul devant les deux filles de la conserverie, devant leur dérisoire coquetterie vestimentaire, leurs tragiques efforts pour paraître proprettes et soignées, leurs étoffes et leurs rubans bon marché, leurs bagues de pacotille. Il sentit qu'on lui tiraillait le bras et entendit une voix lui dire « Réveille-toi, Bill, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu disais « Oh, rien !» répondit la brune en relevant le menton. « Je disais seulement... Eh bien, je disais comme ça que ce serait une bonne idée si tu pouvais dégoter un copain pour elle » fit-elle en désignant sa compagne. « Et alors on pourrait aller manger une glace quelque part ou boire un café ou quelque chose ?» Il fut affligé d'une soudaine nausée de l'esprit. La transition avait été trop brutale. À côté des yeux pétillants et narquois de la fille devant lui, il voyait les yeux de Ruth, clairs et lumineux comme ceux d'une sainte, l'observant dans un halo de pureté. Et bizarrement, cela lui redonna de la vigueur. Il valait mieux que ça. La vie avait plus de signification pour lui que pour ses demi-dinettes, dont les aspirations s'arrêtaient à la crème glacée et aux jolis garçons. Il avait toujours mené une vie parallèle par la pensée. Il avait bien tenté de partager ses secrets, mais n'avait pu trouver aucune femme capable de le comprendre, ni aucun homme. Chaque fois qu'il avait essayé, il avait déconcerté ses auditeurs. Et si ses pensées leur passaient au-dessus de la tête, se dit-il, c'était sans doute qu'il était lui-même au-dessus d'eux. Il se sentit plein de force et serra les poings. Si la vie avait plus d'exigence pour lui, il devait exiger davantage d'elle. Mais que pouvait-il espérer en pareille compagnie ? Ces coquins yeux noirs n'avaient rien à offrir. Ils n'y voyaient qu'une promesse de crème glacée et de quelque chose d'autre. Tandis que les yeux de la sainte, là, à côté d'elle, avaient tout à lui offrir, et plus encore. Ils lui offraient les livres et la peinture, la beauté et le repos, l'élégance raffinée d'une existence supérieure. Ses yeux noirs étaient sans profondeur, il voyait au travers, il voyait clairement la mécanique qui ronronnait derrière et en devinait les moindres rouages. Son unique ressort était la recherche du plaisir, étroit et fade comme la tombe, sa destinée ultime. Mais les yeux de la sainte contenait tout le mystère et l'insondable splendeur de la vie éternelle. Il avait entrevu l'âme qui les habitait, et y avait entrevu son âme aussi. « Il n'y a qu'un truc qui cloche dans ce programme, » dit-il. « J'ai déjà un rendez-vous. »« Pour veiller un ami malade, je suppose, » rétorqua-t-elle, vexée. « Non, sérieux ? Un vrai rendez-vous avec une fille. Tu sais pas de me vanner ?» Il la regarda en face et répondit. « Parole. Mais on pourrait se revoir une autre fois. Tu m'as toujours pas dit ton nom. Et où t'habites ?»« Lizzie, » fit-elle en s'adoucissant, avec une petite pression de la main sur son bras et en se collant contre lui. « Lizzie Connolly, et j'habite entre la 5e et Marquette. » Il bavarda encore quelques minutes avant de leur dire au revoir, mais il ne rentra pas immédiatement chez lui. Sous l'arbre où il tenait sentinelle, il regarda vers une certaine fenêtre et murmura : « Ce rendez-vous était avec toi, Ruth. Me voilà. »